Bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sans plus tarder. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 4 et verset 6. Avant de lire, vous laissez peut-être le temps de chercher. Je voudrais vous poser une question. Qui a une connexion Internet? Qui a Internet à la maison? Qui a une connexion haute vitesse, l'ADSL? Vous êtes comme moi? Bien. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais un jour, j'étais pressé comme ça. Je voyais qu'avec l'Internet ancienne génération, on n'avançait pas vite. Ça allait pas vite. Pour surfer, comme on dit sur Internet, ça allait pas vite. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on ait l'ADSL. Il faut qu'on ait l'Internet haut débit. Et je suis allé dans un magasin et j'ai commencé à me présenter, parce qu'aujourd'hui tout se fait par téléphone, mais à l'époque ça se faisait encore par magasin. Et j'allais et je disais, voilà, je voudrais l'Internet haut débit, le haute vitesse. Et je demande à vraiment avoir un forfait, avoir quelque chose haut débit pour aller plus vite. Et puis je sors du magasin, j'étais content, j'avais enfin mon forfait, j'avais mon abonnement, j'avais signé tous les papiers, tout était bon, j'avais souscrit et je commence à rentrer à la maison, j'habitais encore chez les parents, et je leur dis, ça y est, on a l'internet haut débit, ça va aller plus vite. Puis tout le monde était content, enfin surtout moi, puisque c'était moi qui l'utilisais le plus, et je me suis dit, ça y est, tu vas brancher. J'ai ouvert la boîte avec la box, hein, avec l'appareil, le modem, à l'époque c'était encore les modems, et j'ouvre et je regarde et je vois le modem et je commence à brancher, je commence à tout brancher comme il faut, je vérifie le plan, la description pour installer tout, et puis je fais tout comme il faut, je m'applique bien, tout comme il faut, et je branche tout. J'allume l'ordinateur, et là j'attends et j'essaye d'aller sur Internet, et voilà que au lieu d'aller plus vite, ben j'avance plus du tout, plus d'Internet. Je regarde, je dis, mais pourtant, j'ai pris un forfait plus rapide et je regarde, plus rien du tout. Et je ne comprends pas, je vérifie le schéma, je vérifie tout, et je calcule, je redébranche, je rebranche, je fais tout ça, puis je vois que ça marche pas. J'appelle le service après-vente et je dis, c'est pas normal, j'ai pris un forfait pour aller plus vite et voilà que j'ai plus rien. Et ils ont dit, mais on vous l'a pas dit? De quoi? Eh bien, ça met 3 semaines avant d'arriver. Et quelquefois, ça met 6 semaines. Oh là 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 là. Vous l'avez peut-être vécu ça, hein. Vous pensez que ça allait arriver tout de suite. En plus, il y avait le téléphone qui allait avec et tout. Je pensais. Et puis voilà que, déçu. Pendant 3 semaines, voire 6, j'avais plus rien du tout. Il fallait attendre. Il fallait attendre. Pourquoi? Parce que la ligne au débit n'était pas branchée. La connexion n'était pas faite. Comme on dit, la synchronisation n'était pas faite. Pour des termes un peu plus justes. Il fallait d'abord que toutes les choses soient connectées entre elles. Il fallait une connexion pour que je puisse accéder à cet Internet haut débit. Pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais le matériel, j'avais tout bien branché, tout fait ce qu'il fallait, sauf que j'avais pas la connexion. J'avais pas, eh bien, la connexion qui était faite. Et de la même manière, spirituellement, on peut des fois tout faire bien comme il faut, mettre en pratique exactement tout ce qu'il faut. Tiens, il est dit de prier, je vais me mettre à prier. Il est dit de lire la Bible, je vais me mettre de lire la Bible. Il est dit d'obéir, il est dit de pas mentir, il est dit de pas voler, etc. Il faut pas faire ci, il faut faire ça. Je fais tout, mais il manque quelque chose. Dans ma vie, je réalise qu'il me manque quelque chose. J'arrive pas à progresser, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à remporter des victoires, j'arrive pas à me débarrasser de certaines choses. C'est parce qu'il manque l'essentiel. Il manque la connexion avec le ciel. Il manque une relation, il manque une synchronisation avec le ciel. Alors, excusez-moi pour la comparaison, mais on va le lire clairement avec les mots de Dieu. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est dit à la deuxième partie du verset, c'est Dieu qui parle. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On le relit ensemble? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et on pourrait attribuer à ce verset à tout ce qui correspond au spirituel. Tu veux réussir ton foyer avec Dieu, c'est bien, mais c'est pas par ta puissance, c'est pas par ta force, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que tu vas y arriver. Tu veux obéir à Dieu, c'est bien, tu fais bien, Mais ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est par le secours de l'Esprit de Dieu. Que ça concerne les choses que l'on veut remporter, que l'on voit dans le futur, ou concernant les choses que l'on a acquises dans le passé ou depuis qu'on est chrétien, tout est fait, si c'est fait par Dieu et pour Dieu, par l'action du Saint-Esprit. On prend un deuxième texte dans Deutéronome, au chapitre 8, le cinquième livre de la Bible, Deutéronome, chapitre 8 et verset 17. Peut-être que vous voyez aujourd'hui, vous êtes heureux de ce que vous avez compris de Dieu, vous êtes heureux de ce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes heureux d'avoir fait des progrès, vous remarquez que vous avez remporté des victoires. Voilà le conseil de Dieu encore pour nous. Deutéronome, chapitre 8, verset 17, il est dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main ou ma puissance m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Le Seigneur, dans ce texte, parle au peuple d'Israël. Il dit « Tu sais ce que tu as aujourd'hui ? Tu vas rentrer dans le pays promis, tu vas avoir des richesses, etc. » Rappelle-toi d'une chose, c'est que ça n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta vigueur, par ta puissance que tu vas acquérir tout ça ou que tu as acquis toutes ces choses, que tu as acquis toutes ces choses. C'est parce que c'est moi qui te l'ai donné, c'est moi qui t'ai donné la force de l'acquérir. Donc réalise toujours dans ta vie que ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur te l'a donné que tu l'as et rien d'autre. Si ce n'était pas par Dieu, de toi-même, tu ne pourrais rien acquérir qui ne vienne de Dieu. On pourrait faire un constat aujourd'hui, peut-être dans notre monde, rien que dans notre pays. On pourrait dire, oui, dans notre église, par exemple, dans notre église, tiens, on pourrait faire un bilan. J'ai fait un petit bilan. On pourrait dire, voilà, on est presque 400. Vous voyez, dans notre assemblée, on est presque 400. On pourrait aller voir d'autres petites églises, petites en nombre, peut-être. Hein, on voit Michael, on voit divers serviteurs, divers prédicateurs dans l'église qui vont dans des assemblées moins nombreuses et qui pourtant ont autant d'années que Sainte-Anne. Et on pourrait leur dire, voyez, nous, on a la clé. Nous, on a réussi à être quelques centaines. On a réussi, tu comprends? Nous, on a fait ci, on a fait ça. Rappelons-nous qu'on n'a rien fait de nous-mêmes, et que si on est arrivé à quelque chose, c'est parce que le Seigneur nous l'a donné, et c'est par l'Esprit de Dieu. On pourrait dire, oui, cette année, on a donné pour la croissance dans des endroits de l'Église, pour secourir des frères et sœurs, on a donné des milliers d'euros à d'autres assemblées, de la région, à l'étranger, en Afrique, on a donné des sommes colossales, on a donné des milliers d'euros. Vous voyez, l'Église de Sainte-Anne, les frères et sœurs de Sainte-Anne, les membres du bureau, les pasteurs ont donné des milliers d'euros, rien du tout. Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui mettait dans vos cœurs de donner, il n'y aurait rien du tout. Et on serait comme d'autres églises et qui n'ont rien, qui n'ont pas de quoi donner et même pas de quoi payer leurs factures. On pourrait dire, voilà, cette année on a fait des baptêmes. Il y a eu des baptêmes. Tiens, Laura, dernier baptême. Il y a eu des baptêmes. Nous, on a des baptêmes. C'est rien ça. Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui touchait les cœurs, si ce n'était pas le Saint-Esprit, Jésus lui-même, par son esprit qui s'était révélé à Laura, qui s'était révélé à d'autres, à Benoît, comment est-ce qu'on aurait pu faire de nous-mêmes? Ça ne sert à rien. Oh, on peut faire des baptêmes. Mais si ce n'est pas Dieu qui touche, combien de temps ça va durer? Jusqu'où ça va aller? Et combien de victoires ces personnes vont pouvoir remporter avant de désespérer et de retomber dans le monde? On pourrait dire, oui, il y a des milliers d'auditeurs sur le net. Vous avez vu les prédications de Monsieur Gault? Ah, Monsieur Gault, ça c'est un homme, ça c'est un costaud dans la prédication, ça c'est un efficace. Mais si ce n'était pas le Saint-Esprit qui donnait à Monsieur Gault les messages qu'il doit apporter, croyez-vous que ça aurait autant d'impact? Croyez-vous que ça pourrait tant aider des personnes? Je ne crois pas non plus. On pourrait dire, oui, ici, il y a de l'aide alimentaire. Quelquefois, il nous arrive d'aider financièrement des familles en difficulté. Voyez ce qu'on fait, mais c'est pareil. Si ce n'était pas la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui inspirait la parole pour dire « Aimez-vous les uns les autres, mais aussi accueillez-vous, prenez soin les uns des autres. » Comment pourrions-nous faire ceci? De nous-mêmes, on ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait de cette manière, en tout cas. On pourrait dire qu'il y a des réunions pour les prostituées ici à Sainte-Anne. Vous voyez comme on est bon, mais en vrai, si ce n'était l'amour de Dieu qui avait frappé nos cœurs, on ne pourrait rien faire. On pourrait dire cette année, Des personnes ont été guéries de leur stérilité. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Des personnes ont eu des enfants dans l'église suite à la prière. Vous pourriez dire, voyez comme je prie bien. Mais non, c'est la prière du misérable aussi que Dieu écoute. C'est pas la prière, les formulations, les belles paroles qu'on a dites. C'est l'action du Saint-Esprit qui a fait que ces personnes ont été guéries parmi nous. Et d'autres guérisons, je parlais de ce sujet parce que ça tient à cœur, des cancers qui ont été résorbés dans des familles, etc. Plusieurs peuvent dire ici, oui, j'avais quelqu'un, je le sais moi, quelqu'un qui était atteint du cancer, l'Église a prié, et puis voilà que le cancer s'est arrêté, la personne est debout. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, comment cette personne aurait été secourue? Qui peut dire, moi je sais guérir du cancer? Personne. C'est Jésus qui le fait. Que ce soit les progrès, que ce soit quoi que ce soit, si ce n'était sans l'aide du Saint-Esprit, nous n'aurons rien fait. Mais encore, je regarde plus loin. Merci Seigneur pour ce qu'on a déjà fait. Merci Seigneur pour les progrès. Merci Seigneur pour les belles choses que l'on voit. Mais avez-vous soif de voir encore plus de choses de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main ce soir, qui peut dire, moi j'ai soif de plus de Dieu dans ma vie. J'ai soif de plus de Dieu dans l'Église. J'ai soif de plus de miracles, j'ai soif de plus de manifestations de Dieu, tout simplement, de plus de baptême dans le Saint-Esprit, etc. Moi, j'ai besoin. Et tout ça, ça ne se fera que par la puissance du Saint-Esprit. Souvent, en tant que pasteur, on se pose la question, mais que faut-il faire dans l'Église? Souvent, on se casse la tête et on raisonne, on est là et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'Église puisse croître encore plus? Pour qu'il y ait comme un dynamisme, un désir dans le cœur des frères et sœurs de s'investir? Comment ça se fait que le mardi soir à 19h30, il y ait si peu de personnes? Comment ça se fait que dans les réunions d'évangélisation, le dimanche matin, tout le monde est là, tout le monde adore, et le dimanche après-midi, il n'y a personne presque pour accueillir les nouveaux? Comment ça se fait qu'il y ait tout ça? Et dans notre cœur, il y a vraiment une souffrance, un désir de voir des progrès, de voir des cœurs être sensibles, de nous voir nous-mêmes être encore plus sensibles. Je ne sais pas toi, Michael, mais moi j'ai soif de Dieu encore plus. Je veux encore plus de la présence de Dieu dans ma vie. J'ai soif de Dieu. Et ce n'était pas des blagues la semaine dernière lorsque je disais que je veux plus de Dieu. J'en ai soif, j'en veux de Dieu. Et je sais que peu importe les techniques que je pourrais mettre au point, ça ne vaut rien si ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit derrière. Les disciples ont dit à Jésus, mais quand est-ce que le royaume de Dieu va être rétabli pour Israël? Quand est-ce que ça va venir, le royaume de Dieu sur la terre? Jésus a dit, l'époque, c'est pas à vous de savoir. Votre rôle, c'est d'attendre le Saint-Esprit. Votre rôle, c'est d'aller attendre à Jérusalem. Et tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, d'une manière évidente, que vous en soyez convaincus, d'une manière marquante, tant que vous ne l'avez pas reçu, ne partez pas de Jérusalem. Oui, il y a une mission, allez par tout le monde. Oui, il y a une mission, prêchez la bonne nouvelle. Mais tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ne partez pas. Parce que c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et tant que tu n'as pas reçu ce Saint-Esprit, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tant que tu n'es pas sûr d'être plein du Saint-Esprit, ne pars pas. Reste, attends-le, demande-le, et le Seigneur va le donner. Le Seigneur va le donner. Qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples, les 120 qui étaient là? Ils priaient, ils jeûnaient, ils persévéraient. Ils étaient là dans la présence de Dieu, ils cherchaient la présence de Dieu, ils cherchaient, ils attendaient en fait, tout simplement. Et tant qu'ils n'avaient pas reçu, ils n'ont pas bougé. Mais quand ils ont reçu, ça s'est vu. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Aucune comparaison possible, aucune manière de confondre l'un et l'autre. Il y avait un avant et il y avait un après. Avant, ils étaient tout peureux, ils n'osaient pas sortir. Avant, ils étaient là, ils étaient dans la chambre haute et ils n'osaient pas ouvrir. Il y avait tout ça. Mais quand il y a eu la puissance de Dieu, quand il y a eu le Saint-Esprit, eh bien, ils sont mis à parler. Et Pierre, d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement parlé. Lui qui n'avait aucune instruction, lui qui n'avait rien, il s'est mis à parler d'abondance de cœur. Il n'avait pas préparé un sermon. Voilà, le jour du baptême dans le Saint-Esprit, le jour de l'effusion, le jour de la Pentecôte. Voilà ce que je vais dire. Il n'avait pas préparé son message. Mais d'abondance, le Saint-Esprit lui a dit ce qu'il fallait qu'il dise, lui a mis à cœur le message, il s'est mis simplement à rendre témoignage de ce qu'il avait vu, vécu, il a rappelé ce qui lui venait à cœur par le Saint-Esprit, et voilà que 3000 personnes s'ajoutent aux chrétiens, à ce petit groupe qui priait. 3000 personnes. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance est manifestée, et c'est remarqué. Pourtant, il est dit, ce n'est ni par puissance, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Le mot puissance et le mot force, on pourrait les confondre un petit peu. On dit, mais c'est quoi la différence? Pourquoi ils se répètent? En fait, ils ne se répètent pas du tout. Le mot puissance, c'est un mot qui parle de richesse, qui parle de compétence, qui parle aussi de nombre. Je vous cite trois textes pour vous montrer qu'il est bien parlé de ces choses. Le même mot en hébreu est utilisé dans Genèse 34, 29, si vous prenez des notes. Il est dit « Ils emmenèrent comme butin toute leur richesse ». Et le mot « richesse », c'est le même mot que « puissance ». Et ce n'est pas par notre argent qu'on arrive à faire grandir l'Église. Ce n'est pas par notre argent qu'on attire du monde au trône de la grâce pour qu'il découvre la vie éternelle et le pardon en Jésus-Christ. Ce n'est pas avec des moyens humains, ce n'est pas avec la plus belle Église du monde qu'on arrivera à acheter le salut pour les gens. Ce n'est pas par notre argent ni par nos richesses. Il y a une église aux États-Unis qui a voulu vraiment glorifier Dieu et le moyen qu'ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé mieux que de construire une église tout en cristal, en verre. Et ils ont fait cet édifice, ils ont mis des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour construire cet édifice en architecture, en matériaux, etc. Ils ont dépensé un argent fou. Ils ont mis devant les églises des fontaines incroyables avec des jeux d'eau, etc. Et ils ont cru que c'était comme ça qu'on allait glorifier Dieu. Et ils se sont mis dans ce projet, ils ont bâti cette église, ils ont eu des frais d'entretien phénoménaux. Et il y a quelques temps, il y a quelques années, on a découvert qu'ils étaient endettés comme pas possible. Ils ont dû vendre cette église à une dénomination qui adore des idoles et des statues. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, vous tapez « Crystal Church », l'église en cristal, et vous retrouvez un petit peu le sort de cette église. Ce n'est pas par l'argent qu'on arrive à gagner Dieu, qu'on arrive à gagner des hommes et des femmes à Dieu, des âmes au salut, qu'on arrive à sauver les gens. Ce n'est pas avec de l'argent. Et on pourrait faire le plus bel édifice, montrer les richesses, etc. Ce n'est pas comme ça que l'on glorifie Dieu et que l'on sert Dieu. Le deuxième texte est dans Genèse 47, verset 6. Il est dit « Si tu trouves parmi eux des hommes capables ». Et le mot « capable », c'est le même mot utilisé que le mot « puissance ». Je vous le dis mal, allez, comme ça c'est « kayil ». C'est le mot hébreu, excusez-moi. C'est ce mot, il est utilisé aussi pour dire « Si tu trouves parmi eux des hommes capables ». Et j'aimerais dire encore ce soir et nous rappeler, vous savez toutes ces choses, je les rappelle seulement. Mais nous rappeler que ce n'est pas par nos capacités et nos compétences qu'on va glorifier Dieu, ce n'est pas avec nos talents personnels qu'on va servir Dieu, ce n'est pas avec nos capacités, nos compétences qu'on va gagner des gens à Christ et même qu'on va grandir soi-même. Il y a une mouvance, une façon de penser en ce moment, c'est que plus tu vas travailler ton talent, plus tu seras efficace dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire quelque chose, oui, travaillons notre talent. Oui, si on sert Dieu d'une manière, faisons-le de mieux en mieux et tendons à le faire de mieux en mieux, certes. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas cette méthode qui va faire qu'on va gagner Dieu. Si on oublie d'attendre le Saint-Esprit, il ne se passera rien de glorieux pour Dieu. Ça sera que de l'illusoire, de l'illusion et de l'éphémère. Mais rien de durable pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas en travaillant un talent, une compétence, etc., que l'on arrive à faire grandir ou à faire croître le royaume de Dieu. Et dans Exode, chapitre 14, verset 4, il est dit « Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire ». C'est Dieu qui parle. Pharaon et toute son armée, c'est encore le mot utilisé pour puissance dans notre texte de Zacharie. Pharaon et toute son armée. Armée non pas dans le sens soldat, simplement, mais armé dans le sens de nombre. Et ce n'est pas avec le nombre qu'on va arriver à faire grandir le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est beaucoup dans une église qu'on va arriver à faire grandir le royaume de Dieu plus. Sinon, Dieu serait injuste. La personne qui travaille seule dans une campagne et qui parle pour défricher un champ, pour ouvrir une église quelque part, un missionnaire qui parterait à deux ou trois, lui, sa femme et son enfant, comment arriverait-il à être puissant ? À être efficace dans le royaume de Dieu, si c'était par le nombre. Ce n'est pas par le nombre qu'on fait avancer le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler ensemble. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'aimer les uns les autres, qu'il ne faut pas prier les uns pour les autres. Mais ne nous appuyons pas sur le nombre que nous sommes. Et ce n'est pas parce que dans une réunion, il y a la salle pleine que Dieu va agir plus que si elle était vide. Monsieur Yonggi Cho, qui est aujourd'hui à l'église la plus grande du monde, c'est plus de 700 000 personnes dans son église, ça fait quand même une belle église, une grande église. Il a commencé à prêcher, il y avait lui, sa femme et un très très vieux pasteur. Et il a fait ça dans une tente, sous une tente, il a commencé, il a acheté un chapiteau, il a eu pas cher, il n'avait pas beaucoup d'argent, chapiteau déchiré. Il y avait des déchirures dans la toile et il n'avait que ça. Et il a commencé comme ça. Et première réunion, personne. Personne dans la salle. Mais il a prêché quand même. Deuxième réunion, personne. Il a prêché quand même. Il ne s'est pas découragé. Et puis petit à petit, des gens sont venus. Et Dieu a manifesté sa gloire parce qu'il a persévéré, parce qu'il a eu la foi et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a pu prêcher et Dieu a confirmé sa parole par des miracles qui accompagnaient la parole. Tout ça encore par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de nombre. Le mot puissance nous parle de richesse, de compétence et d'armée, de nombre. Ce n'est pas par ces choses qu'on va avancer. Ce n'est pas ça la méthode de Dieu, si on peut parler de méthode. Ce n'est pas ça le moyen de Dieu. Quand il dit ce n'est pas par la force, ce n'est pas par une force militaire non plus qu'on fait grandir le royaume de Dieu. Et ce n'est pas parce que j'aurai des muscles à n'en plus finir de manière à remarquer, ce n'est pas parce que j'aurai une carrure, une stature remarquable que les gens vont se donner à Christ. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que je vais installer beaucoup de chaises dans l'église, je vais en porter beaucoup, je vais en rajouter, etc. Ce n'est pas parce que je vais faire des efforts physiques que le royaume de Dieu va avancer. Ce n'est pas parce que je vais distribuer des prospectus dans tout Toulouse, à moi tout seul, en marchant jour et nuit, au point de m'épuiser, que le royaume de Dieu va s'avancer et va grandir, ou que l'église va croître, ou que les âmes vont être touchées, ou que les âmes vont être guéries. Ce n'est pas par mes efforts physiques que Dieu va agir, et ce n'est pas à cause de ça. Ce mot parle de force militaire, de force physique ou de force intimidante. Ce n'est pas en intimidant, ce n'est pas comme cela que je vais faire fuir le diable et que je vais résister à ses assauts. Non, ce n'est pas comme ça. Dans Exode 15, verset 6, pour nous montrer que c'est bien de force physique ou de force manière démonstrative qu'il est parlé, Exode 15, 6, il est dit « Ta droite, ô Éternel ». A signalé sa force, ta droite a écrasé l'ennemi. C'est une image pour nous montrer que Dieu a déployé sa force, sa puissance dans le sens de force au point d'écraser l'ennemi. 1 Samuel chapitre 2 verset 9, l'homme ne triomphera point par la force. Ce n'est pas par la force qu'on arrive aux choses avec Dieu, à quelque chose avec Dieu, mais c'est bien, comme je l'ai dit, par l'Esprit de Dieu. Et uniquement par l'Esprit de Dieu. Le terme pour parler de l'esprit, le mot c'est ruach ou ruach, je ne sais pas bien le prononcer encore, mais esprit de Dieu dans le sens souffle de Dieu. Et cet esprit a quelque chose de particulier. Quand il est donné par Dieu, quand il est envoyé par Dieu, il a avec lui quelque chose, il a une force, une énergie de combattant. Il a avec lui quelque chose qui fait de nous des combattants, des vaillants pour lui. Il a avec lui une puissance qui fait de nous des hommes et des femmes d'autorité, remplis d'autorité. Non pas de pouvoir magique, non pas une énergie dans le sens une aura particulière, etc. Mais vraiment une autorité qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, il nous donne une autorité, une assurance particulière. Tout ce qu'on a aujourd'hui, eh bien nous le devons à l'action du Saint-Esprit en nous. Si tant est que ça vient de Dieu. Tout ce à quoi nous aspirons, la croissance de l'Église, des miracles, des conversions, ça ne viendra que par l'action du Saint-Esprit. Et toutes les attaques qui viendront sur nous, nous ne les repousserons pas avec nos forces, nous ne les repousserons pas avec nos compétences, nos richesses ou bien notre nombre. Ah, si on prie à 100, peut-être que là Dieu va exaucer ou Dieu va nous délivrer. Ce n'est pas comme ça. Tout se fera et se fait par l'action du Saint-Esprit. Je voudrais m'appuyer sur un récit biblique particulier. Tournez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17 et verset 3. Peut-être que la référence vous a rappelé une histoire, celle de David et de Goliath. Qui connaît cette histoire? Vous connaissez cette histoire? Même dans le monde, on utilise ces deux prénoms, hein, David et Goliath. Quand on le dit, on sait à peu près de quoi on parle. Il est dit, Au verset 3, donc, les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça fait à peu près entre 2,80 m et 3,20 m. Ça fait quand même du beau porte-parole. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 sicles de bronze, 82 kilos. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 sicles de fer. Ça fait à peu près 10 kilos rien que la pointe de sa lance. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » On s'arrête là. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui ont été faits par Dieu, qui ont été conçus par Dieu, puisque le peuple d'Israël est fait de 3 générations de femmes stériles qui sont tombées enceintes, qui sont devenues enceintes miraculeusement. Et tout le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'est fait, ils sont arrivés à des centaines de milliers. Et voilà qu'à un moment, alors qu'ils prennent possession du pays promis, alors qu'ils sont là et qu'ils sont établis dans ce pays que Dieu leur a donné, voilà l'ennemi qui veut reprendre le territoire, l'ennemi qui veut les terrasser. Et toutes les troupes des Philistins viennent pour assiéger, pour venir combattre Israël. Israël est d'un côté d'une montagne et les Philistins de l'autre côté. Et quelque chose d'assez cocasse se passe, il y a un homme, un porte-parole, un homme d'entre eux qui sort de toute cette troupe. Et lui, on devait le voir de loin, tellement il était grand. Un géant, bien baraqué. Et avec sur lui un équipement dernier modèle, dernier cri, avec un poids, une manufacture exceptionnelle, quelque chose d'incroyable. Personne, humainement parlant, ne pouvait le terrasser. En plus, cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il connaît toute la science de la guerre, la science du combat, l'art du combat, etc. Et il vient devant le peuple d'Israël et il dit ceci, voilà, s'il y a un homme, j'en demande un, qui peut venir vers moi, me combattre. S'il me tue, alors tout le peuple, toute l'armée deviendra vos esclaves. Mais si moi je tue cet homme, si j'arrive à le tuer, alors c'est vous qui deviendrez nos esclaves. Qui veut venir? Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Peut-être que Norbert, il aurait dit, moi je vais y aller. Et moi j'aurais dit, waouh, on va réfléchir, hein? Comme les autres, on va réfléchir, on va peser le pour, le contre. D'un coup, la sagesse va me prendre, voyez. Et on va réfléchir bien. Et cet homme était intimidant. Même le roi Saül, lorsqu'il venait se présenter, il reculait et il repartait tout terrifié. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant plus d'un mois, 40 jours. Pendant 40 jours, voilà, si quelqu'un avait laissé les portables allumés, quelqu'un d'autre, parce que maintenant on sait qu'il y en a un, éteignez, profitez-en pour éteindre vos portables, s'il vous plaît. Pendant 40 jours, ce géant, cet homme, il vient tous les jours et il s'approche et il dit, voilà, le même défi, si quelqu'un veut me tuer, on sera vos esclaves, si quelqu'un est tué, eh bien, vous serez les nôtres. 40 jours, il vient et pendant 40 jours, tout le monde est pris de sagesse et n'ose pas aller affronter ce géant, ce qui paraît logique. Mais verset 20, David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Isaïe, c'est son père. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lancer la clameur de guerre. Verset 39, David mit à sa ceinture l'épée de Saül, par-dessus ses habits et entreprit de marcher car il n'avait pas encore essayé. Je remets un peu le contexte. David est arrivé donc sur le champ de bataille comme à l'habitude. Ça fait 40 jours que Goliath lance un défi, que l'armée d'Israël est terrifiée, pétrifiée, paralysée. Personne ne s'avance, personne n'ose relever le défi. Et voilà que David, je remets un peu encore là le contexte, c'est qu'il est juste berger. C'est un jeune garçon qui est de belle figure, il nous est dit un peu plus tôt. Il est beau, il est joli, il ne fait pas peur, il est blond. La Bible nous dit, il y a plein de détails comme ça, enfin, il joue de la harpe, il est berger, il joue de la harpe. Il a les doigts sûrement délicats pour jouer de la harpe, j'en sais rien en tout cas. Ce n'est pas la personne qui fait la guerre tout le temps. Au contraire, lui, il sort de sa campagne, comme on dit, et il s'occupe simplement des brebis. Il est berger. Et il vient comme ça, et il entend ce géant qui insulte le Dieu d'Israël, qui lance un défi à l'armée d'Israël, qui se moque d'eux, etc. Et lui, il va vers Saül, vers le roi, et il lui dit « Oh, c'est pas normal. » On l'appelle, puisqu'on entend ses propos, et il dit au roi « Ne t'inquiète pas, écoute, n'aie pas peur, moi je vais y aller, ton serviteur il va y aller. » Saül lui dit « Arrête, t'es qu'un garçon, tu peux pas y aller, c'est pas possible. » Il dit « Si, si, je vais te raconter quelque chose. Quand j'étais berger, moi, et qu'un ours ou un lion venait prendre une brebis, et qu'il attrapait la brebis dans sa gueule, tu sais ce que je faisais ? Moi, j'y allais contre lui. Je lui arrachais la brebis. Et s'il se tournait contre moi, littéralement, il est dit, je le prenais par le poil du menton. C'est écrit comme ça. Je le prenais par le poil du menton, je le tapais et je le tuais. Ça, c'est David. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Et il dit, tu vois, comme Dieu me délivrait du lion et de l'ours, Dieu me délivra de ce géant. Je prends par le poil du menton, je le tape jusqu'à ce qu'il soit mort. C'est un fougueux, hein, David. Petit garçon, pépin de mine, blond, tout joli, plus petit que les autres, etc. Mais lui, il a quelque chose d'exceptionnel. Lui, il a une intimité avec Dieu. Lui, il compose des chants à Dieu. Les psaumes sont là pour nous le confirmer. Lui, il connaît Dieu. Lui, il sait que Dieu est un berger. Et il connaît le métier. Et il sait que c'est un berger comme lui, il a appris à l'être. Quand il y a l'ennemi qui vient, il ne s'enfuit pas. Il s'interpose entre la brebis et l'ours ou le lion et l'ennemi. Et il dit, je sais que le Seigneur me délivrera comme il l'a fait. Et verset 39, David essaye, comme je l'ai lu, il essaye de mettre l'armure. Le roi lui dit, bon, tiens mon armure, tiens mon épée, tiens tout ça. David, il essaie de marcher, tellement il est petit, tellement il n'est pas habitué qu'il n'arrive même pas à marcher. C'est du guerrier, ça. Hein, ça, c'est un soldat. Et qu'est-ce qui se passe ? David s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Tout le monde devait le regarder. Qu'est-ce qu'il fait le gringalet ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier, tellement il est grand, son bouclier, tellement il est lourd qu'il faut même un homme pour le porter devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon et de belle... avec le cours. Qu'est-ce que vous avez dans votre version ? Un jeune garçon blond et de belle apparence ou de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. » Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ça vous rappelle pas quelque chose ça ? Ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David. David, il s'enfuit, non, c'est pas ça ? David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Et on peut dire amen. Amen. Que représente ce géant ? Que représente cette armée derrière ? Aidez-moi. Le géant, cet être plus fort que tous les autres, celui qui est un peu à la tête de tout ce monde-là, qui représente-t-il pour nous aujourd'hui? Qui c'est pour nous? C'est Satan, le diable, un géant qui, humainement parlant, ne peut pas être abattu, ne peut pas être repoussé par nous. Satan se lève pour qu'on n'avance pas dans l'œuvre de Dieu, pour nous voler ce que Dieu nous a donné et pour nous empêcher de conquérir le reste du pays que Dieu veut que nous conquérions. Satan se dresse devant nous et il paraît fort, il paraît géant et il fait peut-être peur. Peut-être qu'on ne réalise pas qu'il existe, peut-être que des gens ici ce soir ne croient pas que le diable existe. Aux États-Unis, vous savez que à peu près 50% des croyants, de toutes les églises évangéliques confondues, plus de 50% croient en Dieu, mais ne croient pas au diable. Croient au paradis, mais ne croient pas à l'enfer. Sondage qui a été fait il y a 5 ou 6 ans. À peu près ou plus de 50%, je ne veux pas dire de bêtises, des chrétiens, ceux qui te disent chrétiens, ça a été sondé, et je ne crois pas qu'en France on est meilleur, hein. Demandez à toutes les dénominations qui se disent chrétiennes. Demandez-leur s'ils croient au diable. Vous allez voir que des gens se disent d'une certaine dénomination. Moi, je suis évangélique, mais non, mais je vais au ciel, je ne crois pas à l'enfer. D'autres se disent catholiques, d'autres se disent protestants, et tout confondu, hein. Il n'y a pas à juger, mais demandez-leur. Et vous croyez au diable? Non. Vous croyez à l'enfer? Non. On ira tous au paradis. Mais le diable existe, il est comme un géant qui est là, qui se dresse entre nous et la promesse de Dieu, qui veut nous voler, qui veut nous terrasser, c'est Jésus qui l'a dit, c'est encore dans les épîtres, qui veut nous accuser, qui veut nous terrasser. Qu'est-ce qu'on va faire face au diable? Parce qu'il n'est pas seul en plus, c'est vrai. Il y a toute une armée derrière, une armée d'anges déchus, une armée de démons qui sont là pour empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Vous y croyez à ça ou pas? Je vous dis quelque chose de... Je vois vos visages tout déconfits. Mais est-ce que vous savez ça? Des fois, on prend la vie chrétienne à la rigolade. On croit que c'est quelque chose de facile, que le temps fera son œuvre, fera son action. Avec le temps, ça ira. Mais est-ce qu'on réalise qu'il y a un combat à mener, non pas les uns contre les autres, non pas les êtres humains avec les êtres humains, mais contre les puissances des ténèbres, contre tout ce monde-là qui veut empêcher les gens de se donner à Christ? Est-ce que vous savez que votre présence lors d'une réunion est tellement importante parce qu'il y a un combat incroyable qui se fait? Est-ce que vous savez que votre prière est tellement importante parce qu'il y a un combat encore là qui se joue et qui se fait? Tout à l'heure avec mon épouse, on partageait cela, on a pris la décision après cette réunion ce soir de passer un temps dans la prière. On a un repas, on va manger, on va coucher les petits, etc. Mais on a pris conscience, on a discuté, c'est qu'il y a besoin de prier tous les deux parce qu'après qu'il y ait la semence qui ait été jetée, il y a un voleur qui vient comme des corbeaux et il mange la semence. C'est dans la Bible? C'est écrit dans les évangiles, Jésus l'a dit. Et juste après cette réunion, il y aura quelqu'un qui vous fera oublier tout ça, qui vous empêchera de penser à tout ça. Et je veux prendre le temps ce soir, désolé si je tarde un peu, mais je veux nous faire réaliser qu'il y a un combat, il y a un ennemi qui est là, il y a un géant qui veut nous voler ce qu'on a reçu de Dieu et qui veut nous empêcher de saisir ce qui nous est promis et qui est là devant nous, qui se dresse et humainement parlant, c'est impossible de l'avoir. Si ce n'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas les méthodes qu'on va mettre en place, les stratégies qu'on pourrait imaginer qui vont faire qu'on va gagner du terrain ou garder le terrain conquis. Ce n'est pas non plus notre force, combien même spirituelle, qui va faire qu'on va y arriver. Force qu'on appellerait spirituelle. Tu sais, je prie 3 heures, et alors, si ce n'est pas pour rencontrer le Seigneur, à quoi ça sert de prier? Si ce n'est pas pour dans ce moment de prière, avoir un attouchement, un moment particulier avec Dieu, mais à quoi ça sert de prier? Quand on prie, si on se contente d'annoncer à Dieu de faire notre liste de demandes ou une liste de requêtes et puis repartir comme ça, si ce n'est pas pour avoir un moment où je touche le bord du vêtement de Dieu, je sens sa présence et je sais qu'il m'a entendu, je sais que j'ai reçu ce que j'ai demandé, à quoi ça sert de prier? Et moi, le premier, je me contente trop de prières, prières superstitieuses. Je crois que parce que j'ai dit des mots qui formulent mon besoin, ça va être bon. Mais j'oublie de passer du temps devant Dieu pour lui demander simplement, Seigneur, mets ta paix, mets l'assurance dans mon cœur que c'est quelque chose qui est acquis, que tu as entendu ma prière et que tu as exaucé, que j'ai bien tout compris ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que j'abandonne peut-être aussi pour que tu puisses confirmer et exaucer ma prière. Vous savez, Quand il dit ni par puissance ni par force, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de puissance. Je l'ai dit au tout début. On a besoin d'une puissance, mais celle du Saint-Esprit. Pas une stratégie humaine, pas des compétences humaines, pas des richesses humaines, mais des richesses du ciel. On a besoin de quoi ? On a besoin de sagesse. Ça, c'est de la puissance spirituelle, une sagesse spirituelle, pas du monde. On a besoin de charisme spirituel, des dons du Saint-Esprit, comme on l'appelle. On a besoin d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse pour savoir comment agir dans l'Église et quel plan, quelle œuvre faire dans l'Église. On a besoin aussi, non pas d'être nombreux humainement parlant seulement, bien que le nombre soit une bénédiction, mais on a surtout besoin de comprendre que les anges sont là pour agir en faveur des chrétiens. C'est écrit dans Hébreux au chapitre 1 que les anges sont au service de Dieu, ils ne sont pas à mon service les anges. C'est pas moi qui donne les ordres aux anges, je ne parle pas aux anges moi. Les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. C'est ça que j'ai compris, c'est que je ne suis pas tout seul, que je dois comprendre, je ne suis pas tout seul. J'ai des anges qui vont agir sur l'ordre de Dieu en ma faveur. Et quand je demande à Dieu, viens me secourir dans mon défi, dans mon problème, Dieu peut mobiliser une multitude d'anges pour venir à mon secours. Est-ce que je crois ça? Vous croyez aux anges? Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer des anges pour agir en notre faveur? Moi je crois. Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer un ange dans une rue pour aiguiller quelqu'un dans cette salle? Moi je crois. Je crois que Dieu peut envoyer un ange dans une pièce, dans une maison, parler à quelqu'un et lui dire à telle adresse, il y a une église et on priera pour toi, on s'occupera de toi, tu entendras la parole et tu pourras me rencontrer. Tu auras du secours pour ton problème. Va là-bas, ce que tu vas entendre, c'est Dieu qui te le dira. Est-ce que c'est possible? Vous y croyez ou pas? Ou je suis fou? Si je suis fou de la folie de Dieu, parce que c'est ce qui est écrit. Il dit, vous avez accueilli des anges sans le savoir. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Est-ce que Dieu peut envoyer des anges pour que l'œuvre de Dieu se fasse miraculeusement? Moi, je crois à tout ça. Et même s'il y a un géant qui se dresse devant moi, même s'il y a toute une troupe derrière pour finir le travail une fois qu'il aura commencé, moi, je sais que j'ai un nom. David, il a dit, toi, tu viens avec ta lance, ton javelot, ton épée. Moi, tu sais comment je viens? Je viens avec le nom de l'Éternel. Et nous, on a le plus beau nom, le nom qui est au-dessus des anges, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui, lorsqu'il est invoqué, il vient nous secourir. Il y a une puissance, il y a une mobilisation du ciel pour venir répondre dans ma vie. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus. Est-ce que Jésus est encore important pour vous? Est-ce que c'est juste un petit Jésus dans une crèche? Ou est-ce que c'est le roi ressuscité, celui qui a reçu toute autorité, celui à qui tout obéit? Les anges, les démons, tout le monde obéit. Quand il y a un mot de sa part, la chose s'accomplit. Moi, je viens au nom de Jésus. Et je ne veux pas venir en un autre nom. Et j'ai prié Dieu, j'ai supplié Dieu pour ce soir, qu'il vous fasse entendre à vos cœurs. Qu'il y a un combat, mais que ce n'est pas par des méthodes, ce n'est pas avec des réflexions, ce n'est pas même avec votre force, ou avec notre force qu'on va arriver à résister au diable ou à vaincre des épreuves dans des épreuves. C'est par le secours du Saint-Esprit, envoyé par Jésus. Parce que je veux dire que Jésus, viens m'aider. Jésus, envoie ton Saint-Esprit dans ma vie pour que je sois puissant. Je veux recevoir cette puissance. Oui, cette sagesse. Je veux recevoir ces charismes, ces prophéties, ces paroles de connaissance, ces paroles de foi. Je veux recevoir ces choses pour avancer. Je veux recevoir le secours des anges. Enseigne-moi à prier par le Saint-Esprit. La force humaine doit être transformée par des convictions. La force physique est transformée en Dieu par des convictions qui fait que je suis fort spirituellement, c'est-à-dire j'ai des convictions. Je sais que Dieu n'abandonne pas ses brebis. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu est le bon berger, Jésus est le bon berger, et qu'importe votre souci, Jésus ne vous abandonnera jamais. Jésus est là pour vous, il est là avec vous, il prie pour vous, il intercède pour vous, il envoie son Saint-Esprit pour vous secourir. Est-ce que c'est encore vivant dans vos vies? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous êtes convaincu que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet? Ou est-ce que vous avez encore peur? Peur de ce qui pourrait vous arriver? Peur de ce qu'on pourrait vous faire? Peur de ce que les gens peuvent penser de vous? Ou est-ce que vous savez, vous êtes convaincu que Dieu est votre berger et que vous ne manquerez de rien et qu'il vous donnera un travail et qu'il vous donnera une épouse ou un époux, qu'il vous donnera la force de résister à l'adversaire? Est-ce que vous avez encore cette conviction? Moi, j'ai besoin encore plus de conviction pour être plus fort. Ce n'est pas par puissance, ce n'est pas par force humaine. Ce n'est par la puissance de Dieu et par les convictions du Saint-Esprit que je fais l'œuvre de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a pris sa petite fronde là. Il a pris ses pierres, des pierres dans une rivière polie, humblement, petitement, avec ses faiblesses, mais puissant par le nom qu'il avait dans son cœur, plein d'assurance, il est allé, il a visé, je suis sûr que le Saint-Esprit l'a aidé à viser, il a bien visé, et c'est allé dans le front, ça s'est enfoncé dans le front, c'est un peu bizarre hein, cette affaire, c'est dans la Bible, ça s'est enfoncé, et l'ennemi, ce géant, est tombé. Et sur la croix, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a triomphé de l'ennemi. Le géant est tombé. Le géant est tombé. Et maintenant qu'il est à terre, on n'a pas à lui attribuer plus de pouvoir qu'il ne pourrait en avoir sur les enfants de Dieu. Il a un pouvoir, le diable, mais normalement pas sur les enfants de Dieu. S'ils demeurent dans la foi, s'ils sont pleins de l'Esprit Saint, prions, supplions Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit pour être forts. Vous voulez savoir si vous êtes remplis du Saint-Esprit? Posez-vous la question, est-ce que je suis puissant en Dieu? La promesse, c'est pas plein de choses, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Jésus, avant de partir, il a dit « Vous recevrez une puissance ». De toutes les promesses qui accompagnent le baptême dans le Saint-Esprit, celle que Jésus a retenue, c'est « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, lorsqu'il surviendra sur vous ». Êtes-vous puissant dans votre vie chrétienne? Êtes-vous puissant dans votre foi? Êtes-vous puissant dans l'Église? Est-ce que l'Assemblée de Sainte-Anne peut dire « On est puissant » Non pas par nos forces, non pas par nos stratégies, notre puissance, notre sagesse, mais par le secours du Saint-Esprit. On ne savait pas, quelqu'un est rentré, et puis il y a quelqu'un qui a reçu une parole de connaissance, une prophétie, il l'a donnée, la personne a été confondue, elle s'est donnée au Seigneur, aujourd'hui elle rend son témoignage, elle se fait baptiser. Est-ce que ça ne peut pas être ça? Est-ce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est venu, il était malade, il ne savait pas trop, il a dit « Allez, je viens, j'ai entendu Jésus guérit, allez, je viens ». Jésus manifeste la guérison, et cette personne dit « Voilà, j'ai été guéri ». Et je ne me fais pas baptiser pour dire merci à Dieu, mais je m'engage avec lui parce que je sais aujourd'hui qu'il est vivant. Il a touché dans ma vie, il a touché mon cœur. Puissions-nous avoir cette puissance. Pardonnez-moi pour le temps qui a passé, pour la durée, mais c'était important sur mon cœur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'ai demandé à Michael, avec son épouse, et il m'a dit qu'eux aussi allaient intercéder. Pour que cette semence ne soit pas volée, il y a un voleur, il y a un accusateur, il y a le diable qui veut enlever ça de nos cœurs. N'oubliez pas ces choses, méditez ces choses. Reprenez 1 Samuel 17 et pensez que c'est ni par force, ni par puissance, ni par force, mais par le Seigneur, par le Saint-Esprit, que nous avons le royaume de Dieu qui avance, que nous avons la victoire, que nous avons des progrès dans notre vie et que nous voyons la gloire de Dieu se manifester. 1 Samuel 17 et Zacharie, chapitre 4, verset 6, les deux versets. Amen. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie d'avoir mis sur mon cœur cela. Je ne le fais pas, je n'ai pas dit ces choses avec un doigt accusateur. Je m'inclus dans le besoin de cette assemblée. Seigneur, aie pitié de nous, fortifie-nous, encourage-nous. Rappelle-nous, Seigneur, qu'il y a vraiment un combat qui se mène et que ce combat n'est pas simple, il est rude, mais nous sommes sûrs aussi d'avoir la victoire en toi puisque tu as triomphé à la croix de l'ennemi. Merci, Seigneur Jésus, de nous rendre participants de cette victoire, de nous rendre puissants par toi, de nous rendre forts par toi, Seigneur Jésus, par ton esprit. Envoie ton Saint-Esprit sur cette assemblée, que chacun se mette à avoir soif d'être rempli du Saint-Esprit, soif d'être puissant pour toi. Moi-même, Seigneur, j'ai besoin encore de ta puissance pour grandir avec toi. S'il te plaît, fais-le en moi, fais-le en nous, Seigneur. Par ta grâce, on ne le mérite pas, mais on compte sur toi et on sait, parce que tu l'as dit, parce que tu l'as promis, qu'on peut saisir ces choses, Seigneur. Donne-nous d'être obéissants en toutes choses aussi, parce que tu nous en rendras capables, Seigneur, par ton Esprit Saint. Que ton nom soit glorifié en cette soirée et chaque jour de notre vie. Que le diable n'ait aucun accès sur cette semence. Que cette semence porte du fruit dans nos cœurs. Qu'on la chérisse, qu'on l'entretienne. Nous voulons arroser cette semence par la prière. Nous allons le faire, Seigneur, personnellement. Je vais le faire, mais je crois que d'autres aussi peuvent se rajouter. Tu mets à cœur de chacun de passer un temps ce soir dans la prière pour que cette semence ne soit pas volée, mais pour qu'elle puisse être efficace et te glorifier dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes choses. Amen.